puisqu'il est 18h. Et le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg. Bonsoir Anne.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. 22 personnes blessées ce matin dans le métro de Londres. Attaque terroriste, la cinquième en 6 mois au Royaume-Uni. La première ministre Theresa May organise une réunion en urgence cet après-midi dans la capitale britannique. Nous ferons le point avec Antoine Gignot au début de ce journal. Le Qatar toujours sous l'embargo de ses voisins du Golfe à la recherche d'appuis internationaux à quelques jours de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'émir du pays était à l'Élysée en début d'après-midi. Précision à suivre de Christian Chéneau. Emmanuel Macron qui cultive une aptitude optimiste aujourd'hui alors qu'une nouvelle journée de grève se prépare chez les fonctionnaires au mois d'octobre. La journée a été extrêmement bien scénarisée à l'Élysée. Elle se termine d'ailleurs autour de la célébration des futurs Jeux Olympiques à Paris. Analyse à suivre de Ludovic Piétenu. La fête de l'humanité à la recherche de la convergence des gauches, même sans Jean-Luc Mélenchon. Nous entendrons la députée insoumise des Hauts-de-Seine, Elsa Fossillon, qui s'est créée un espace qu'elle dit constructif. Le PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, dévoile ses ambitions dans un nouveau plan stratégique. Il s'agira de vendre 14 millions de véhicules par an à l'horizon 2022. L'alliance franco-japonaise rejointe par Mitsubishi se renforce, mais quelles conséquences pour l'emploi ? C'est ce que va nous dire Hakim Kasmi. Enfin, l'enquête du journal de 18h ce vendredi, les dérives du Conseil économique, social et environnemental, enquête signée Sylvain Tronchet à la fin de ce journal. Mais avant de développer ses titres, le journaliste Lou Bureau est désormais libéré. Son avocat et son comité de soutien l'ont annoncé en début d'après-midi. C'est maintenant confirmé par le Quai d'Orsay et l'Élysée. Emmanuel Macron salue comme un grand soulagement la remise en liberté du reporter âgé de 27 ans. Lou Bureau était emprisonné en Turquie depuis le 26 juillet dernier, 51 jours précisément. Les autorités d'Ankara l'accusaient d'appartenance à une organisation terroriste armée. Alors on ne sait pas quand le journaliste reviendra sur le sol français précisément, mais sa libération survient au lendemain de la visite du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian qui a rencontré le président Erdogan. Pour le secrétaire général de Reporters sans frontières, c'était effectivement la clé.
Ce n'est pas un hasard évidemment si la libération du bureau elle survient alors même que le ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian était hier et aujourd'hui à Ankara, s'il a rencontré hier le président turc Erdogan. Ça faisait des semaines, enfin depuis le début, qu'on savait très bien que celui qui avait la clé du verrou, celui qui pouvait ouvrir la cellule de Lou Bureau, c'était Erdogan lui-même. Et au fond, les interlocuteurs turcs, quand les autorités françaises leur demandaient, leur disaient « ça n'est pas normal qu'un journaliste français se retrouve ainsi en détention », faisaient un signe avec le doigt tourné vers le haut, sous-entendu « c'est le grand chef, c'est le président Erdogan ». Qui a la clé de la prison. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'Erdogan a fini par faire passer le message et qu'un juge a fini par prendre cette décision.
Des propos recueillis par Céline Asselot. La capitale britannique toujours en émoi ce soir. Nouvelle attaque terroriste dans une rame du métro londonien, station Persons Green, située dans un quartier aisé du sud-ouest de la ville. C'était ce matin, 22 blessés. Attentat perpétré à l'aide d'un engin explosif artisanal qui n'a pas été revendiqué pour l'instant et qui intervient après une série d'attaques qui ont endeuillé le pays ces derniers mois. Les précisions à Londres d'Antoine Gignot.
Oui, ce ne sont que des blessures légères, des brûlures, quelques coupures et des hématomes causés par la bousculade lors de l'évacuation du métro. 22 personnes, au minimum, ont été prises en charge dans les hôpitaux de la ville, mais rien de très grave, précisent les ambulanciers. Le bilan aurait tout de même pu être catastrophique si l'engin avait fonctionné comme prévu. Il s'est enflammé, il y a eu une courte détonation, mais pas de blast, pas de souffle. Les experts comparent le dispositif à la bombe artisanale laissée au mois d'octobre 2016 dans une autre rame de métro londonienne sur la ligne Jubilee et qui n'avait à l'époque pas explosé. Toute la journée, la brigade antiterroriste a exploré les alentours, interrogé les témoins et consulté les images des caméras de surveillance dans 7 stations de métro différentes. Un suspect aurait été identifié, mais il n'a pas été pour l'instant localisé. La chasse à l'homme continue. Le ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson, demande dans l'intervalle aux Londoniens de continuer à vivre le plus normalement possible. Le niveau d'alerte dans la capitale britannique reste maintenu maintenue au niveau 4 sur une échelle de 5. C'est au total la cinquième fois depuis le début de l'année que le Royaume-Uni est frappé par une attaque terroriste.
Précision signée Antoine Gignot. Et puis une autre attaque s'est aussi produite aujourd'hui dans le métro à Paris. Un homme armé d'un couteau a agressé un militaire en patrouille station Châtelet. Il n'y a pas eu de blessé. L'assaillant, un Français de 39 ans, inconnu des services de police, est toujours en garde à vue dans les locaux de la brigade criminelle de la police judiciaire. Septième agression contre des militaires de la force Sentinelle depuis 2015. Avant son déplacement la semaine prochaine à l'Assemblée générale des Nations unies, l'émir du Qatar a démarré une grande tournée internationale pour sensibiliser à la situation de son pays, toujours sous l'embargo des pays du Golfe et de l'Égypte. Tamine Ben Ahmad Al Thani était ce matin à Berlin, où la chancelière Merkel a plaidé des négociations discrètes entre Riyad et ses voisins pour permettre à chacun, je cite, de sauver la face. Conflit qui dure effectivement depuis plus de 100 jours. Les opposants au Qatar reprochent à l'émirat de soutenir des mouvements extrémistes et de ne pas se joindre au front anti-iranien. Cet après-midi, c'est à l'Elysée que l'émir du Qatar s'est rendu. Qu'est-il ressorti de cette rencontre, Christian Chéneau?
Évidemment, la crise qui oppose l'émirat à ses voisins du Golfe a constitué l'essentiel des discussions à l'Elysée. Le Qatar est sous pression et cherche des appuis internationaux. Et avant l'Assemblée générale de l'ONU, il tente de neutraliser ses adversaires qui ne vont pas manquer de manœuvrer publiquement et en coulisses. Depuis le début de la crise, le 5 juin dernier, Emmanuel Macron et l'émir Tamim ont échangé à 6 reprises par téléphone, nous a confié un diplomate français qui explique que le plus difficile dans ce dossier, c'est que personne ne veut perdre la face. La France essaie non pas de jouer les médiateurs, mais de parler aussi bien au Qatar qu'à l'Arabie et aux Émirats Arabes Unis. L'Élysée a récemment confié à Bertrand Besancenot, ancien ambassadeur à Doha et à Riyad, la tâche de déminer la crise et de faire passer des messages d'apaisement. Pour Paris, c'est un exercice d'équilibrisme diplomatique compliqué car les intérêts économiques de la France dans les monarchies du Golfe sont considérables. Pas question de se mettre à dos l'un ou l'autre des protagonistes. En tout cas, pour l'émir Tamim, cette première sortie hors de son pays depuis le déclenchement de la crise prouve qu'il se sent en confiance car depuis 3 mois, il était quasiment assigné à résidence chez lui dans son palais de Doha.
Les précisions de Christian Chéneau. Emmanuel Macron qui était bien occupé aujourd'hui car avant de rencontrer l'émir du Qatar, moment solennel dans son bureau de l'Élysée. Le chef de l'État avait convoqué toute la presse pour assister à la ratification de la loi sur la confiance dans la vie politique. Et cet après-midi, autre image forte, toujours à l'Élysée, la célébration de l'attribution des JO 2024 à Paris avec sur la photo les deux anciens présidents, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Bonsoir Ludovic Piétenu.
Bonsoir Anne.
Le chef de l'État qui traverse sa première crise sociale semble tout miser sur une attitude positive.
Oui, rester solide, ne rien laisser paraître face à la grogne sociale, au front social qui se dessine jour après jour, manifestation du 12, puis du 21, puis du 23 septembre et maintenant les fonctionnaires le 10 octobre et entre-temps, dès ce lundi, les routiers pour une première mobilisation, puis le 25, des annonces de blocage de sites stratégiques. Aujourd'hui, l'Élysée veut voir le verre à moitié plein avec cette séquence inédite qui a immédiatement fait penser à une cérémonie à l'américaine, à ses lois promulguées devant caméras et photographes.
Il s'agit donc là de 2 textes importants que je viens de signer, qui sont donc aujourd'hui promulgués.
Voici donc un président qui paraphe et qui, par ce geste habituellement fait dans la plus grande discrétion, promulgue ses lois censées réduire la défiance entre les Français et leurs élus. Emmanuel Macron est assis à son bureau sous les ors de l'Élysée, encadré par 2 ministres se tenant debout pour cette inédite mise en scène, peut-être unique, simplement parce qu'il s'agit là du premier texte que le gouvernement a souhaité défendre dans ce quinquennat. On verra à l'avenir si Emmanuel Macron systématise la pratique. Et puis, l'autre séquence, vous l'avez décrite, Anne, que le président veut positive, la France et Paris qui décrochent les Jeux Olympiques de 2024. Cérémonie organisée in petto sur le champ à l'Élysée. Et cet extrait du discours, c'était il y a quelques instants.
Vous l'avez gagné parce que vous l'avez mérité. J'en ai été le témoin tout à fait objectif. Vous l'avez mérité parce que vous avez su tenir l'unité. L'unité du mouvement sportif. L'unité, c'est aussi celle de la vie politique et des responsabilités.
Voilà Emmanuel Macron qui fait de l'unité son talisman avec à ses côtés les 2 anciens présidents. Il veut rassembler les Français et insuffler des messages positifs. Un de ses très proches me disait cette semaine que dans l'état dans lequel se trouve le pays, ce qu'il mène est un combat psychologique pendant la campagne. Il a pour partie transformé le pessimisme ambiant en attente. Aujourd'hui, il doit combler ses attentes, mais du pain et des jeux ne seront sans doute pas suffisants pour combler le fossé qui s'est creusé entre les Français et leurs représentants politiques.
Merci Ludovic Piétenu pour votre analyse. Les syndicats de fonctionnaires ont donc appelé à une grève nationale le 10 octobre prochain. Grève contre les mesures de réduction des dépenses publiques comme le gel du point d'indice ou le rétablissement du jour de carence. Depuis Berlin, où il a rencontré la chancelière Merkel, le Premier ministre Édouard Philippe a estimé qu'en France, nous avons beaucoup plus besoin de mouvements que de blocages. Il veut faire de la fête de l'humanité le plus grand rassemblement anti-Macron. Pierre Laurent, le secrétaire national du PCF, travaille toujours à rassembler une gauche bien divisée. Alors quelle place compte prendre dans ce festival la France insoumise, dont le chef de file Jean-Luc Mélenchon est l'absent peut-être le plus remarqué? Écoutez ce qu'en dit la députée insoumise des Hauts-de-Seine, Elsa Foussillon, qui s'est créé un espace pour organiser justement cette construction à gauche.
Cette fête, elle doit être un lieu d'ébullition, bien sûr de contestation aux politiques libérales de tout poil et à celles de Macron, évidemment, mais aussi un lieu de construction. Et aujourd'hui, cette construction, elle est réinterrogée, cette construction à gauche. Moi, je dis comme ça, je sais que Jean-Luc ne sera pas là, c'est dommage. J'espère vraiment que l'année prochaine, on pourra tous et toutes être réunis. En même temps, il y a de nombreux représentants de députés de France Insoumise. Moi, j'en accueille sur mon stand en débat demain avec Clémentine Autain, Éric Coquerel. Et puis, il faut, avec d'autres, avec des syndicalistes. Il y aura aussi Olivier Besancenot demain sur mon stand pour débattre. Il y a besoin qu'on se mette tous en tas, mais en tas constructif, positif, pour interroger cette reconstruction à gauche.
Des propos recueillis par Sophie Delpont. Il est en prison depuis 40 ans, mais il devrait sortir très vite. Patrick Henry a obtenu une suspension de peine pour raison médicale. Le plus ancien détenu de France a été condamné en 1977 pour le meurtre d'un enfant. Le procureur de Melun indique qu'il pourrait sortir dès demain, Mathilde Lemaire.
Il avait échappé à la peine de mort, il échappe à la mort derrière les barreaux. Ces dernières années, il avait essuyé plusieurs refus de libération, mais cette fois, les juges appliquent un article du Code pénal qui prévoit une suspension de peine en cas de pathologie grave engageant le pronostic vital. Le ministère public et l'administration pénitentiaire avaient donné un avis favorable. L'assassin en 76 du petit Philippe Bertrand souffre en effet d'un cancer, stade 4, métastasé, il nécessite une chimiothérapie et d'autres soins lourds. Il est épuisé, peine à tenir debout et pèse moins de 60 kilos. Le tribunal d'application des peines de Melun a estimé qu'il n'existait plus de risque grave de récidive étant donné cet état de santé. Le plus ancien et plus célèbre détenu de France, écrou 89-52, quittera donc la prison de Melun demain matin. Ce qui réjouit son avocat, Maître Lévy, dans un communiqué, estime, je cite, « inconcevable que les prisons soient aussi des lieux où les hommes meurent ». Patrick Henry sera hébergé près de Lille dans un appartement non loin du CHU, appartement prêté par une visiteuse de prison avec laquelle il s'est lié d'amitié il y a 24 ans. Elle lui versera aussi 300 euros par mois jusqu'à son dernier souffle.
Explication de Mathilde Lemaire. Renault, Mitsubishi, Nissan, en plus d'un nouveau logo passant de deux à trois courbes entrelacées, l'alliance des trois constructeurs va être renforcée. Le PDG, Carlos Ghosn, a annoncé son nouveau plan stratégique. Ce matin, il prévoit 14 millions de ventes de véhicules par an d'ici 6 ans. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Anne.
C'est un plan très ambitieux pour le constructeur qui est devenu au premier semestre numéro 1 mondial des ventes, mais qui pourrait bien avoir des conséquences sur l'emploi. C'est en tout cas ce que craignent les syndicats.
Oui, pour doubler ses synergies de 5 à 10 milliards d'euros d'ici 5 ans, le groupe compte sur des économies d'échelle qu'il va bien répartir à travers ses trois marques, Renault, Nissan et Mitsubishi, avec plusieurs plateformes communes. Cela concernera principalement bien les voitures citadines et électriques, idem pour les moteurs, qui seront communs dans 75% des cas. Des mesures qui doivent permettre également, selon son PDG, Carlos Ghosn, de réduire les doublons, ce qui fait craindre aux syndicats de nouvelles suppressions de postes, aussi bien chez les ouvriers que les cadres, notamment en recherche et développement. Fabien Gache, délégué central CGT chez Renault.
Renault SAS en France, c'est plus de 53% d'ouvriers qui ont été supprimés depuis 2004, c'est-à-dire depuis que Carlos Ghosn est PDG. Et si on prend la totalité des effectifs, c'est-à-dire j'y inclus les techniciens, les cadres, on est passé de 42 000 salariés à 26 000 à fin 2016.
De son côté, Carlos Ghosn estime qu'au contraire, avec le volume des ventes qui vont augmenter, pour passer de 10 millions à 14 millions, eh bien, cela va créer de l'emploi. Mais le PDG de Renault ne dit pas ni où ni comment, vous allez l'entendre. Il reste très vague dans sa réponse.
Oui, il y aura des conséquences sur les emplois, ils seront positifs. Si vous passez de 10 500 000 voitures à 14 millions, je dirais que ça entraîne forcément plus d'emplois.
Rappelons que Renault ne produit que un tiers de ses voitures en France, quand son principal rival, PSA, lui, en produit la moitié dans l'Hexagone.
Merci Hakim Kasmi pour toutes vos précisions. Le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, l'a annoncé ce matin. Le guichet dédié aux évadés fiscaux fermera ses portes le 31 décembre prochain. Guichet aussi connu sous le nom de cellule de dégrisement fiscal. Ils ont été instaurés pour favoriser la régularisation des comptes détenus illégalement à l'étranger. Bonsoir Laure Verneau.
Bonsoir.
Ces guichets ont été créés par une circulaire en juin 2013 dans le contexte de l'affaire Cahuzac. Guichet qui permettait aux détenteurs d'un compte caché de se manifester spontanément auprès de l'administration fiscale. Vous nous expliquez quel a été le résultat de cette politique.
La philosophie de ce service reposait sur ce dicton « faute avouée, à moitié pardonnée ». Et on peut dire qu'il a été efficace. En 4 ans, 32 milliards d'avoirs ont été régularisés et sur ces 32 milliards, l'État a prélevé 7,8 milliards d'euros. Pour ces évadés repentis, le régime de majoration et pénalité de droit commun est appliqué, mais avec un peu plus de clémence pour les contribuables qui sont considérés comme passifs. Ce sont ceux qui héritent d'avoirs qu'ils n'ont pas touchés et qui donc échappent à la menace d'une procédure pénale. La Direction Générale des Finances Publiques a d'ailleurs dressé le profil type du contribuable repenti. Il est originaire de la région parisienne dans presque la moitié des cas. Il a 72 ans. Ses avoirs sont principalement d'origine familiale, succession, donation et sont sur des comptes en Suisse dans 80% des cas. Il régularise en moyenne un peu plus d'un million d'euros d'avoir, une mise en conformité qui lui coûte toujours en moyenne 360 000 euros. Pour les évadés, l'intérêt est double, disposer d'une certaine sécurité juridique et surtout de jauger précisément le montant à payer. En 2016, la cellule de Bercy a donc fait 2,4 milliards d'euros de recettes, mais cette année, ce sera bien en deçà des prévisions, de l'ordre d'un milliard d'euros à peine. Le dispositif qui, à la base, n'avait pas vocation à être pérenne a donc fait son temps. Les objectifs fiscaux sont remplis, mais surtout ne correspondent plus au nouveau mode de fraude. La fermeture de ces guichets coïncide d'ailleurs avec l'entrée en vigueur de l'échange automatique d'informations bancaires. Pour le ministre Gérard Darmanin, il s'agit d'un cadre international plus efficace pour détecter les fraudeurs.
Merci Laure Verneau pour vos explications. L'enquête du journal de 18h ce soir focus sur une institution peu connue de la 5e République, le Conseil économique, social et environnemental, le CESE pour les intimes. Son siège est au palais de Iéna dans le 16e arrondissement de Paris. Bonsoir Sylvain Tronchet.
Bonsoir Anne.
Emmanuel Macron a annoncé qu'il voulait réformer cette chambre consultative de la République. Il va y avoir du travail et notamment à commencer par faire tomber toutes les résistances.
Oui, à commencer par celle des syndicats et du patronat qui siègent en nombre au CESE, dans cette chambre censée éclairer le gouvernement. Plus de la moitié des 233 sièges leur sont réservés. Et ils y sont comme chez eux, m'a raconté l'ancien député UDI Nicolas Perruchot, auteur d'un rapport sur l'argent des syndicats.
Certains syndicats considèrent que le 16 est en partie à eux. Pour les partenaires sociaux, c'est en fait une seconde maison. Et je suis persuadé que les partenaires sociaux, que ce soit les représentants des syndicats de salariés comme les représentants du patronat, seront très liés entre eux quand ils défendront ça dans le bureau du président de la République.
Et ce n'est pas une image, le CESE est un endroit où patrons et syndicats effectivement se font la bise, mais l'entente cordiale a aussi totalement bloqué la machine. Ces rapports ne disent souvent pas grand-chose, parce qu'il ne faut froisser les intérêts de personne, m'a raconté Claire Nouvian, qui a siégé quelques mois au CESE.
Tous les sujets qui de loin ou de près pouvaient fâcher étaient immédiatement tué dans l'œuf. Et en fait, il y avait de la pression, c'est la pression politique qui était exercée par, en effet, les syndicats, les chambres professionnelles, etc. Et je me suis dit, mais si on est là dans une fonction consultative, mais qu'on n'a même pas la liberté de discuter de quoi que ce soit, mais j'ai vraiment mieux à faire.
Et les partenaires sociaux verrouillent d'autant plus le CESE qu'il est aussi une source de financement déguisé. Les représentants syndicaux, par exemple, reversent leur indemnité de 3000 euros à leur centrale. Ça peut représenter pour un syndicat des centaines de milliers d'euros par an.
Et les syndicats sont les seuls à profiter de ce système ?
Non, il y a aussi les fonctionnaires du CESE qui bénéficient davantage en or, comme me l'a raconté un ancien haut fonctionnaire de la maison qui a souhaité garder l'anonymat. Son témoignage est lu par un journaliste.
Le personnel a noué de fortes relations de solidarité avec les syndicats présents dans l'Assemblée. Au bout d'un moment, ils ont obtenu des statuts et des déroulements de carrière sans équivalent. Il y avait des dizaines de primes, des heures supplémentaires fictives payées tous les mois. Du coup, il n'y a aucun turnover chez les agents. ils ne trouveront jamais mieux ailleurs.
Et c'est vrai, le salaire moyen au CESE est de 4000 euros par mois et à ce prix-là, on peut faire une heure de gym par jour sur son temps de travail. Temps de travail qui, pour certains, est d'ailleurs inférieur à la durée légale. L'ancien président du CESE, Jean-Paul Delevoye, a bien tenté quelques réformes, mais ce petit coup de ménage lui a clairement coûté sa réélection en 2015. C'est ce que m'ont raconté plusieurs personnes, dont l'ancienne conseillère du CESE, représentante du patronat, Sophie de Menton.
Il a arrêté des dérives gravissimes en les supprimant, il l'a payé. Vous savez, c'est le coup de l'huissier au ministère qui est là, les ministres passent, mais lui, il reste. Hein. C'est exactement ça, le CESE. Puis alors, on rigole pas, parce que quand il se passe quelque chose au CESE ou si jamais on veut se séparer de quelqu'un, c'est le patron du syndicat qui est appelé immédiatement hein, et qui a peu appelé le président de la République. Je veux dire, c'est à ce niveau-là.
L'Élysée qui a donc annoncé qu'il voulait réformer le CESE, le 3 juillet dernier, devant le Congrès, Emmanuel Macron a dit qu'il devait devenir le forum de notre République, c'est-à-dire en fait ce qu'il devrait déjà être. Il veut aussi supprimer un tiers de ses membres et là, il risque bien de trouver quelques résistances.
Enquête signée Sylvain Tronchet à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. Enfin, la sonde américaine Cassini a plongé, comme prévu, en début d'après-midi dans l'atmosphère de Saturne, sonde qui est désormais détruite et qui met fin à une mission scientifique qui aura bouleversé la planétologie et la quête pour la vie dans le système solaire. La météo de demain samedi, de belles apparitions ensoleillées dans la région PACA et les Alpes. Alternance de nuages et d'éclaircies partout ailleurs. Il y aura de la pluie sur le nord de la France et les températures 12 à Lille, 13 à Paris, 14 à Bordeaux et à Lyon, 17 à Marseille et jusqu'à 21 degrés à Ajaccio. Journal préparé avec Jean-François Braun à la technique, c'était Jacques Hubert.